Bleu Drôme Ardèche à votre service. Jusqu'à 10h, Nelly Sorbier.
Et surtout aujourd'hui, Arthur Molik, notre médecin du sport, avec qui nous parlons tendinite, crampes, entorses, déchirures, maux de dos, pourquoi pas, ça vous parle. On parle de la traumatologie du sport avec Arthur, bonjour.
Bonjour Nelly.
Merci d'être avec nous, alors vous êtes les bienvenus avec vos questions, hein. Dites-nous si vous souffrez de l'un de ces maux, ce que vous avez mis en place, parce que l'idée c'est quand même de continuer le sport, de continuer à faire du sport, on sait que c'était essentiel pour la bonne santé, que ce soit physique ou mental. Et puis, on va voir aussi avec vous, Arthur, comment éviter justement de souffrir en faisant une activité sportive, en faisant du sport précisément, et voir si les récidives sont fréquentes ou pas. Bref, parlez-nous de vous au 04 75 40 10 10, c'est comme ça que nous avançons tous les jours. Oui, les bobos, comme ça, alors c'est pas vraiment des bobos, c'est carrément de la traumatologie. C'est ce qui remplit en grande partie votre cabinet, Arthur ?
Oui, en médecine du sport, on va dire que au moins 70% de nos consultations, c'est, on peut appeler ça de la traumatologie. Ça peut aller de douleurs relativement bénignes, tendinites, à des pathologies plus importantes comme des déchirures ou des fractures, effectivement. Mais c'est une grosse partie de notre activité au cabinet.
Donc c'est important de faire de la prévention, d'expliquer comment les éviter déjà. Et puis on verra aussi comment vous alerter, comment savoir si on doit consulter ou pas, parce qu'on a tendance parfois à supporter ces douleurs et à ne rien dire à personne.
Oui, je trouve que c'est surtout la méconnaissance des pathologies qui fait qu'elles sont mal prises en charge. C'est-à-dire, je pense qu'on a bien compris comment elles fonctionnent, on peut déjà mieux les appréhender, le but étant surtout de les prévenir. La prévention est toujours bien plus efficace que la guérison. Mais les comprendre et les anticiper, c'est surtout de comprendre qu'une lésion, c'est relativement simple dans la façon de pouvoir mettre en place un soin, et c'est surtout de les guérir, de faire l'autruche quand on a une lésion en se disant je vais juste la laisser passer le repos, on m'a donné éventuellement je prends des antalgiques, on m'a donné des anti-inflammatoires du repos, malheureusement ça n'a jamais bien guéri une lésion musculaire ou tendineuse. Ça peut enlever la douleur, ça peut nous permettre d'être mieux au quotidien, mais si on veut vraiment redonner au tissu ses qualités fonctionnelles pour pouvoir refaire des efforts sans avoir acquis une faiblesse à cet endroit-là, effectivement, ça va passer par de la rééducation très souvent.
Et alors, quels efforts? Parce que je le disais en préambule, c'est vrai que c'est important de continuer à faire du sport. Peut-être pas n'importe quel sport, du coup, on va peut-être devoir renoncer à celui qu'on aime, celui qu'on fait habituellement pour découvrir d'autres sports ou tout simplement des mouvements à faire chez soi.
Ah, il y a autant de cas de figure que de patients, j'allais dire, mais ce qui est très important, et le discours d'un médecin du sport, à mon sens, doit être celui-là, c'est surtout pas dire aux gens, arrêtez. On va adapter, très souvent, pendant une durée donnée, le temps de faire le traitement, mais moi, j'ai quasiment aucun patient que je dois arrêter, à qui je demande d'arrêter de faire du sport. Il y a toujours des activités sportives ou physiques que l'on peut maintenir, et c'est très important, parce que le premier muscle à rééduquer quand on est blessé, c'est le cœur. Le système cardiovasculaire, le cœur, les poumons, ça c'est quelque chose qui doit toujours être mis en activité et qui va permettre également une bonne cicatrisation. Si le cœur fonctionne bien, le système circulatoire fonctionne bien, on oxygène ses tissus. Et donc, quel que soit le protocole de cicatrisation ou de rééducation qu'on met en place, si cette pompe cardiaque fonctionne bien, on optimise la cicatrisation. Donc, il y a toujours possibilité de maintenir des activités qu'on va, on va dire, adapter, on va naviguer de façon un petit peu différente pendant souvent ces phases de rééducation, mais il faut surtout ne pas arrêter les activités physiques et le sport, si c'est possible, lors de ces pathologies.
Oui, même pour les douleurs dorsales, aujourd'hui, on conseille de rester en mouvement. Enfin, voilà, on n'est plus à l'époque où on disait ne bougez pas, restez dans votre lit.
Non, il y a eu des études très claires qui ont montré que dans les lombalgies, donc les douleurs dans le bas du dos, dans les lombaires, qui sont quand même une pathologie très fréquente, l'inactivité augmente les douleurs.
Alors, après, pas n'importe quelle activité, il y a des sports quand même qui vous amènent plus de gens que d'autres, j'ai envie de dire.
On a plus de chances de se faire mal en faisant du rugby que du billard, mais on peut avoir des pathologies dans des sports assez surprenants, des fois.
Ouais. La randonnée que les gens pratiquent beaucoup, notamment chez nous en Drôme Ardèche, avec des coins magnifiques à explorer, à découvrir, vous amène aussi beaucoup de monde, mine de rien.
Oui, puis on a un terrain en Drôme Ardèche qui est assez... ça monte pas très haut, mais ça monte très raide, souvent. Et oui, les pathologies de genoux, et notamment des douleurs sur les rotules, qui sont des pathologies très, très fréquentes au cabinet, c'est une très grosse partie des pathologies qu'on croise, sont très souvent déclenchées à l'issue de randonnées, où les gens disent, mais j'ai fait une randonnée, et dans la descente... Bon, j'ai eu une douleur au genou qui n'a fait qu'augmenter avec le dénivelé. Et souvent, c'est pas des pathologies compliquées à traiter, mais très souvent, effectivement, des activités qui ne paraissent pas violentes en soi peuvent quand même, si elles sont inhabituelles. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Le corps est habitué à avoir, on va dire, un stress mécanique quotidien par ses activités, ses habitudes. Et dès qu'on va sortir de ses habitudes d'une façon un peu brutale, même si on est sur des activités douces, c'est un stress qu'il va falloir prendre en compte. C'est souvent là où arrivent les pathologies.
04 75 40 10 10, venez nous parler de vos pathologies à vous, vos soucis à vous, 04 75 40 10 10, trouvez des solutions avec Arthur Molik. Et puis témoignez, vous avez déjà été confronté à des crampes, des courbatures, des entorses lors d'une pratique sportive. Est-ce que vous avez des astuces pour les éviter, les soulager? Racontez-nous comment vous avez réussi à continuer à faire du sport hein, malgré ces obstacles, quel sport? Et puis partagez vos conseils aussi pour éviter les récidives et poursuivre votre passion pour le sport en toute sécurité.
France Bleu Drôme Ardèche jusqu'à 10h, à votre service.
Arthur Molik, notre médecin du sport avec qui nous parlons de vos douleurs, vos blessures aujourd'hui en 04 75 40 10 10. Appelez-nous avant 10h, après on n'a pas le temps de tous vous accueillir. Donc si vous souffrez de crampes, de contractures, d'entorses, d'élongations, de tendinites, j'ai relevé aussi les fractures, les déchirures musculaires, on pourrait rajouter quoi, les lombalgies, tout ce qui est problème de dos.
Oui, bon, y en a beaucoup. Toutes les douleurs, on dit muscles, os, tendons.
Ouais, voilà, hein, là c'est clair. 04 75 40 10 10 pour trouver des solutions. Savoir quel sport vous pouvez pratiquer. Il faut absolument continuer à faire une activité physique. Ça c'est indispensable, on le répète tous les jours quasiment sur cette antenne. Mais alors quel sport est fait pour vous? Et puis est-ce que vous risquez une récidive? 04 75 40 10 10. On a Evelyne qui nous a laissé un message sur le Facebook de France Bleu Drôme Ardèche. Alors qui nous dit: Arthur, je souffre d'une blessure à l'épaule droite suite à une chute depuis plus de 7 ans. Je pense que ça s'est transformé en rhumatisme. Peut-être que je n'ai pas eu les meilleurs soins à l'époque et j'ai peut-être pas fait tout ce qu'il fallait, mais je crois que j'aurai cette douleur longtemps et qu'il est trop tard maintenant pour moi. Alors est-ce qu'Evelyne doit se résigner en effet, ou est-ce qu'il y a un peu d'espoir quand même après 7 ans?
Ouais, il y a toujours de l'espoir, il ne faut pas se résigner, sinon ça devient compliqué.
Ouais.
Comme je dis, ça va toujours être difficile de parler comme ça sans plus de précision, mais toute pathologie, il n'y a pas de fatalité, c'est-à-dire qu'une pathologie qui est prise en charge, elle doit pouvoir s'améliorer. Et on a des solutions, la médecine n'arrête pas de progresser, on a très régulièrement des traitements ou des nouvelles techniques de soins. Donc une pathologie n'est jamais, à mon avis, fixée, elle peut toujours évoluer. Je l'espère guérir, mais en tout cas, on peut toujours améliorer les patients. Dans le cas de notre auditrice,
Evelyne, qui dit que ça s'est transformé en rhumatisme.
Pour revenir à ce terme de rhumatisme, c'est un terme qu'on emploie souvent dans le langage courant. Il faut savoir qu'un rhumatisme, ça fait référence en médecine à des pathologies inflammatoires, très souvent auto-immunes, comme on peut avoir des polyarthrites, les spondylarthrites. En fait, c'est globalement le corps qui se défend contre des articulations. Donc, c'est des inflammations articulaires qui sont dues très souvent à des anticorps qu'on produit. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est une pathologie de fond.
Ouais, c'est pas lié à un choc ou à une chute.
Non, très souvent. C'est pas ça. Alors après, suite à un choc, très souvent, on peut avoir des usures des impacts au cartilage. Alors, on va plutôt, quand le cartilage est usé par les d'arthrose, ça, c'est la dégénérescence du cartilage, qui peut être une usure dans le temps et qui peut être majorée par des traumatismes.
Mais qui est une usure dans le temps fatale, j'ai envie de dire.
De fait, c'est génétique. Il y a une grande part de l'arthrose. Il y a des familles d'arthrosiques. On sait qu'on a une base génétique de qualité de cartilage. L'exemple que je donne souvent à mes patients, c'est comme des pneus. On peut avoir un pneu de voiture. Déjà, si le pneu est de pas très bonne qualité et que la gomme est pas super bien, elle va s'user plus vite. Ça, c'est la génétique. Et puis après, la façon dont on pilote va faire en sorte qu'on va user plus ou moins vite ces pneus. Bah, les articulations, c'est vraiment comme ça. Le cartilage, c'est la surface de recouvrement des articulations qui sert de zone de friction. Donc, selon les activités et son capital génétique, on va l'user plus ou moins vite. Donc, ces usures-là traumatiques, ça va être plutôt de l'arthrose. Et ce qu'on va mettre un peu en parallèle des arthrites, de ces rhumatismes, qui vont plutôt être vraiment des maladies à part. Et pour revenir à Evelyne, alors ça mériterait de faire des examens, mais il faut pas se résigner. Si on a une pathologie qui traîne, il faudrait probablement peut-être refaire des examens un peu spécifiques. Alors, j'entends toujours, ce que je dis à mes patients, c'est que la principale intérêt, c'est l'examen clinique. Il faut examiner les gens. C'est là où on pose nos diagnostics. C'est là où on émet nos hypothèses. Et les examens, ils viennent étayer cela. Je pense que raisonner sur
les radios,
les IRM, les échographies.
Ah oui, d'accord.
Mais partir d'emblée sur des examens sans avoir déjà une idée, ne serait-ce que pour le radiologue. Quand on motive un examen en disant « je cherche cela, j'aimerais faire ce type d'examen pour cette pathologie », il y a, quand on dit faire une IRM de l'épaule, par exemple, dans le cas d'Evelyne peut-être, c'est compliqué une IRM, il y a plusieurs séquences qu'on peut faire, selon ce qu'on va chercher, on ne va pas faire les coupes au même endroit. Donc l'examen clinique, je pense aujourd'hui, c'est très important d'examiner les gens, et même pour les gens, je pense que de se sentir examiné, moi dans ma pratique aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas perdre le contact avec les patients. Eux, je pense que ça les rassure aussi, d'une fois, qu'on prenne soin d'eux, qu'on vienne au contact avec eux.
Oui, puis voilà. Ça permet de poser donc le bon diagnostic,
on va dire. Du moins les hypothèses diagnostiques, voilà. Et d'orienter les examens d'une façon très précise, pour du coup avoir des résultats d'examen qu'on puisse exploiter. Mmh. Puisqu'il m'arrive malheureusement certaines fois de devoir refaire faire des examens, puisqu'on est allé d'emblée sur un examen très généraliste, qui pouvait être à faire dans un premier temps, mais le fait est que l'examen clinique nous a orienté sur une piste et qu'on va refaire un examen plus ciblé. Donc j'encouragerais Evelyne à se rapprocher peut-être d'un spécialiste pour qu'on refasse un examen clinique de son épaule, et puis peut-être faire des soins, mais il faut jamais se résigner sur une douleur d'épaule, en tout cas il y a toujours des solutions.
Bon ben voilà, ça c'est ce qu'il faut retenir. C'est vrai que pendant des années, et puis c'est toujours le cas aujourd'hui, il y a des gens finalement qui prennent leur mal en patience, comme on dit, il ne faut pas. Hein.
Il y a des solutions. Oui, alors des gens qui sont durs au mal, ou qui s'en foutent, et puis des fois des conseils qui n'ont pas toujours été très vertueux dès le début, en disant c'est comme ça, ça ne bougera plus, faites-en votre partie. Je suis pas sûr que ce soit le bon discours toujours.
France Bleu Drôme Ardèche jusqu'à 10h, à votre service.
Avec Arthur Molik, notre médecin du sport, on parle de vos douleurs, vos blessures aujourd'hui au 04 75 40 10 10. Bonjour Suzanne.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes à Aubenas. Alors oui. Expliquez-nous ce qui vous amène, Suzanne.
Eh bien moi, depuis des années, depuis mon âge, c'est normal, et j'ai des crampes surtout au mollet, toutes les nuits presque. Oui. Et je n'ai comme soin que des massages ou des séances de kiné tous les deux fois par semaine. Mais je n'ai pas de solution. J'ai fait des activités physiques adaptées, mais ça ne me convient pas très bien non plus.
Les crampes reviennent ?
Pardon ?
Les crampes reviennent quand vous faites des activités physiques ?
Oui, c'est toujours. Je n'arrive pas à savoir. Maintenant, il faut quand même que je dise que j'ai 8 vertèbres qui ont été soudées ou enfin rangées dans le dos. Mm-hmm. J'ai eu les deux hanches avec des prothèses, mais ça ne me fait pas mal. C'est pas ça qui me fait mal.
Ce sont les crampes.
Ce sont les crampes.
Eh oui, mais je vous comprends parce que vous disiez vu mon âge, mais il n'y a pas d'âge pour avoir des crampes et c'est vrai que c'est très douloureux la crampe.
Oui,
très douloureux.
Bonjour Suzanne, merci pour votre appel. Au niveau des crampes, alors les causes de crampes, on peut en avoir gros comme un bottin téléphonique. Il y a beaucoup de causes différentes, que ce soit dans votre cas, Suzanne. Alors, une petite question, vous avez des semelles orthopédiques dans vos chaussures qui ont été faites par un podologue?
J'en avais, là maintenant j'en ai plus. Il faudrait que je retourne voir le docteur pour m'en faire prescrire de nouveau parce que j'en ai eu.
D'accord.
C'est la solution, c'est l'une des solutions
Ça fait partie de l'arsenal de thérapeutique qu'on a, de l'éventail de solutions qu'on peut proposer. Très souvent les crampes vont être dues à deux choses, c'est-à-dire une sursollicitation d'un muscle, en l'occurrence ceux des mollets pour Suzanne, qui sont sollicités en journée et qui du coup la nuit ont, on va le dire comme ça, une mauvaise capacité à pouvoir récupérer. Et donc du coup on va avoir des contractions musculaires un peu involontaires, qui vont être très douloureuses d'ailleurs. Donc les conseils qu'on donne premièrement, c'est déjà de faire le point avec un podologue. Je ne sais pas s'il faut mettre des semelles pour Suzanne, mais faire le point avec un podologue, parce que le fait de réharmoniser un appui au sol peut permettre de diminuer le travail du mollet en journée. Ensuite, il y a des causes de crampes qui sont aussi des causes neurologiques, c'est-à-dire que un muscle, c'est très simple, c'est un câble électrique qui arrive sur le muscle, ce qu'on appelle sur la plaque motrice, et qui le stimule et qui fait qu'il va se contracter. Et puis, dans certains cas, cette commande, la nuit, elle est un peu autonome, des fois, elle va déclencher la crampe. Alors, il y a des petites techniques qu'on donne, par exemple, le fait de pouvoir, si on peut tourner les jambes sur un vélo, par exemple, avant d'aller se coucher, 10 minutes.
Ah oui, alors attendez, on vous entend de loin, du coup, Suzanne, vous disiez ?
Oui, j'en ai un vélo, c'est possible.
Voilà.
Donc, ça c'est bien.
L'idéal,
déjà.
Ce serait de tourner les jambes sans résistance, mais juste de remettre une toute petite activité musculaire très douce au niveau du mollet avant le coucher.
Oui, on fait pas un sprint. Hein,
pas du tout, voilà. C'est juste une de balade. Réactiver un peu, de réharmoniser le fonctionnement du mollet avant la nuit. Et ça, il y a... Chez certaines personnes, ça les aide beaucoup.
D'accord.
Il y a des petites techniques après. Bon, ça peut être de mettre des bas de contention, mais qui sont pas toujours évidentes à mettre en fonction de son âge et de son dos, parce qu'il faut se baisser. C'est des fois compliqué à mettre en place.
Pas toujours agréable à porter.
Pas toujours agréable à porter. Mais Suzanne, moi, dans un premier temps, peut-être de refaire le point avec un podologue pour regarder si vous aviez besoin de semelle ou pas. Et puis le vélo.
Oui, excusez-moi. Moi, je pensais voir un neurologue, parce que je me demande si c'est pas nerveux aussi.
Ça peut l'être. L'avantage, c'est que, en tout cas, sur le podologue et le vélo, c'est quelque chose qui est facile à faire. Et si ça vous soulage, déjà, vous aurez fait un grand pas. Ça n'empêche pas, éventuellement, peut-être, d'aller voir un spécialiste en fonction, toujours est-il, toujours, comme je vous le disais tout à l'heure, de l'examen clinique qu'on pourrait avoir.
Mmh. Et après, on dit parfois que c'est parce qu'on ne boit pas assez, les crampes.
La boisson, le fait de boire, en fait, permet d'avoir un volume de sang circulatoire de bonne qualité et de permettre aux reins d'évacuer les toxines circulantes. Mmh. Et on sait que certaines toxines, certains déchets, notamment quand on fait de l'activité physique, peuvent être des acidifiants. Et quand la cellule musculaire baisse son pH, donc devient un peu acide, effectivement, ça peut favoriser l'apparition des crampes. Donc, il faut pas surboire, attention, hein, ça sert à rien de trop boire, mais il faut effectivement boire correctement et ne pas être déshydraté.
Et après, on parle d'aliments qui favorisent les crampes, par exemple?
Alors ça, c'est un gros débat. À titre personnel, je n'engage que ma parole, mais je pense que vraiment, c'est un débat aujourd'hui vis-à-vis de mes patients. Je leur dis de rester quand même très prudent là-dessus. Il faudrait vraiment faire des excès monstrueux pour être dans des cas d'acidification sanguine majeure due à l'alimentation. Si on boit pas 3 litres de lait cru par jour, si on ne mange pas que du gluten, à savoir 2 kilos de pâtes ou 3 baguettes de pain par jour.
Ou 15 kilos de tomates, parce que les tomates sont décriées pour ça. Bon, c'est pas la saison en ce moment, de toute façon.
Tout aliment, c'est un équilibre de
acido-basique, comme on dit. Hein.
Légèrement pro-inflammatoire. Les fibres sont intéressantes, mais les fibres peuvent avoir une côté inflammatoire sur l'intestin. Donc, en fait, le conseil que je donne, c'est de manger le plus sain possible et équilibré. Et en général, avec ça, ça se passe très bien.
Et ensuite, donc, d'aller voir un orthopédiste pour Suzanne, c'est le premier conseil.
Oui, je pense qu'il faudrait recommencer par ça, faire un point sur la pose de vos pieds, votre équilibre postural, Suzanne, et essayer tourner 5-10 minutes sympa. Le vélo sans aucune résistance avant de vous coucher, juste vraiment histoire de faire tourner les mollets avant d'aller au lit.
Et si on n'a pas de vélo, on fait comment? On se met sur son lit, on tourne les pieds comme si on en avait un.
On peut marcher un petit peu ou faire des petites montées sur les pointes de pied.
D'accord.
Il existe des petits pédaliers qui sont en général très accessibles, en général moins d'une quarantaine d'euros, qui peuvent se mettre au sol. Et c'est vrai que assis sur une chaise, c'est pas aussi efficace que le vélo, mais c'est quelque chose que je conseille beaucoup aux gens qui ne peuvent pas, ou qui, par exemple, des gens qui sont en transit ou en voyage très régulièrement, les commerciaux dans leur voiture. Ces petits pédaliers qu'on met au sol et qui peuvent permettre d'avoir en tout cas ce pédalage. Mmh. Facile d'accès.
D'accord, plus facile d'accès qu'un vélo d'appart. Les pointes et les pieds à plat,
Toute petite activité très douce, exactement.
Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, prenez soin de vous, Suzanne, et on va vous donner d'autres conseils d'ici la fin de cette émission. À bientôt sur France Bleu Nord-Ardèche. Tanguy est avec nous depuis Parnant. Tanguy, on vous fait une place avec votre lombalgie dans 5 minutes sur France Bleu Nord-Ardèche. 04 75 40 10 10. Venez nous retrouver pour nous parler de vos douleurs, vos blessures et en parler avec notre médecin du sport, Arthur Molik, avant 10 heures.
France Bleu Nord-Ardèche, 9h-10h, à votre service.
Ah, cela dit, en dansant sur Claude François, on peut se faire mal, mine de rien, hein, au niveau physique. On parle de nos douleurs ce matin, de nos blessures liées au sport, aux activités, hein, d'une manière générale. C'est vrai que parfois, ça arrive d'un coup. On ne sait même pas pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé.
Oui, des fois, c'est le classique. C'est les gens qui disent, mais moi, j'ai fait mon activité hier, tout se passe bien, et on se lève le matin, on ne peut plus marcher. Alors, c'est qu'en fait, il y a des lésions qui sont, tant qu'on est dans l'activité, sont en fait tamponnés ou par les endorphines, sont un peu passent inaperçues.
On dit que le corps est chaud.
Oui, c'est ça. Et c'est surtout la nuit, on a une petite hormone qui est le cortisol, qui est sécrétée par des petites glandes au-dessus des reins. Le cortisol, c'est comme la cortisone, c'est un très bon anti-inflammatoire naturel. Et en fait, ce cortisol, la nuit, quand on est couché, les glandes au-dessus des reins ne sont pas stimulées par l'activité, elles s'arrêtent, le cortisol baisse, et du coup, tous les œdèmes se majorent, et les douleurs aussi. Et souvent, on se lève le matin et on a un gros œdème qui s'est mis dans une petite lésion, mais qui du coup devient symptomatique.
04 75 40 10 10 pour parler de vous avec Arthur Molik, notre médecin du sport. Bonjour Tanguy.
Bonjour Nelly, bonjour docteur.
Bonjour.
Alors, vous avez un problème de lombalgie, c'est ça?
Oui, j'ai un problème de lombalgie depuis plusieurs années, mais ça faisait à peu près 2 ans que je n'en ai pas eu. Puis là, en début d'année, j'avais bien commencé avec une bonne lombalgie qui m'a immobilisé. Le premier jour, je ne pouvais plus rien faire. Même me lever, c'était plus possible.
Ah oui.
Et là, maintenant, j'ai encore un peu des douleurs sur le... J'ai l'impression que c'est musculaire, ou pas forcément, mais c'est sur, on va dire, bah, les reins, mais c'est pas aux reins, quoi, mais...
Le bas du dos, quoi.
La zone, ouais, la zone de lombalgie, mais plutôt sur les côtés, que pas proche de la colonne, mais à l'opposé.
Ouais.
Et suivant les mouvements que je fais, surtout quand je lève la jambe ou autre, des fois, ou que je me torsionne un peu, ça me lance et j'ai peur que la lombalgie revienne.
Eh oui, c'est ça. Et puis c'est vrai que quand on a eu mal quelque part, c'est difficile après de se laisser aller complètement. On a toujours cette crainte que ça revienne.
Hein. Oui, c'est certain. Bonjour Tanguy.
Alors la lombalgie, déjà pour tout le monde, alors, ça vient de quoi?
Les douleurs lombaires, dans la majorité des cas, sont quand même des douleurs d'origine musculaire, c'est-à-dire que les muscles autour des vertèbres se contractent de façon réflexe et très intense pour protéger une zone qui est un peu en souffrance. C'est une zone en souffrance. Elle peut être de deux origines principales. Il y en a plusieurs, mais si on veut faire très simple, c'est ou un disque, donc les amortisseurs qui sont entre chaque vertèbre, qui est un peu usé, qui n'arrive plus à jouer son rôle, voire qui sort un petit peu. Ça peut être ce qu'on appelle, quand ça sort beaucoup, c'est les hernies discales.
Ouais.
Voilà. Et donc, le corps vient protéger cette zone et le contracte en disant, moins ça bouge, moins ça risque de sortir. Et sinon, c'est les articulations postérieures des vertèbres, qui font que les vertèbres peuvent toutes pivoter les unes sur les autres, en tout cas au niveau lombaire, qui se grippent. On va dire ça comme ça. Ça se déplace pas, une vertèbre, mais ça se grippe. Mmh. Et du coup, il y a une contracture réflexe autour. Donc, c'est le classique limbago. Les gens font un mouvement, ils restent foudroyés sur place.
Oui, c'est ce qui vous est arrivé, Tanguy. Vous ne pouviez plus vous lever le matin, hein, c'est ça. Ouais,
mais c'est pas limbago. Limbago, j'en ai déjà eu en étant très jeune. Et que je n'ai plus maintenant, heureusement. Mais c'était, ouais, je me suis. Non, je ne m'en pas me le matin. C'est en me levant du canapé, même.
Voilà. Ouais, voilà,
c'est ça, sur un effort, un mouvement. C'est sur un mouvement général, pas forcément de force, plutôt un mouvement où on est plutôt détendu, d'ailleurs, parce que les muscles sont relâchés. Ce qu'il faut savoir, c'est que, quelles que soient les pathologies du dos, le traitement est finalement relativement toujours un peu le même. Quand on a une pathologie du dos, c'est très souvent qu'il y a un manque de haubanage, de gainage de cette colonne vertébrale. Le dos, c'est comme un mât de bateau. Un mât de bateau, ça tient pas par les quelques boulons qui sont sur le pont, ça tient par tous les haubans qui sont tendus et qui le lient à la coque. Mmh. Tous ces câbles. Si ces câbles se détendent, le mât, il casse. Le dos, les muscles les plus importants au niveau du dos et de la stabilité du dos et de sa protection, ce sont les abdominaux. Mais pas les grands droits, ces grands abdos, les tablettes de chocolat, comme on les appelle. C'est les muscles abdos profonds et notamment les transverses. C'est ceux qui sont vraiment très très bas, juste au-dessus du pubis. Et ces abdos-là, ceux qu'on travaille en général de façon très optimale dans le pilate. Tout c'est le pilate permet vraiment de travailler sur la mobilité du bassin, ce qu'on appelle la rétroversion du bassin, le fait de basculer son bassin pour activer ses transverses, qui quand les transverses sont activées, le dos est totalement protégé. Ça ouvre les espaces entre les disques, ça verrouille les vertèbres et toutes les forces, les lignes de force qu'on appelle, c'est-à-dire le transfert quand vous levez, vous poussez sur vos jambes pour lever votre buste, vont passer par les abdos et ne vont pas diffuser dans le dos.
D'accord.
Et si on perd ça avec le temps, ces forces vont devoir passer par la colonne et par ses disques et ses articulations, et c'est très souvent là où on déclenche des douleurs.
D'accord. Donc ce sont les abdos...
transverses, les abdos bas, c'est la sangle basse des abdos qu'il faut travailler. Et j'encourage moi tous mes patients qui ont des problèmes de dos... On peut leur montrer des exercices, je les fais avec eux, j'essaie de leur faire comprendre cette mobilité du bassin, puisqu'une fois que ça c'est acquis, on peut vraiment faire une auto-rééducation très facilement à la maison.
En faisant uniquement ces mouvements du bassin.
Oui, enfin,
des
exercices de gainage, en bonne position, ce qu'on appelle. Mais je vous encourage vraiment, Tanguy, dans ces cas-là, si ces douleurs musculaires reviennent un petit peu, peut-être de vous orienter vers des profs de pilates, alors vraiment de studio pilates, hein, vraiment du
vrai pilates,
qui ferait que ça, voilà,
ouais.
Du professionnel de pilates. Des fois, on trouve un peu de pilates dans pas mal de salles de sport, ça peut être très bien, mais il faut quelqu'un qui soit à côté de vous. Il ne faut pas que ce soit
un cours collectif,
ou alors d'accord. Si, mais avec 5 ou 6 personnes, ou un petit effectif. Mais ça, à mon avis, ça peut être la solution pour vous, Tanguy.
Ouais, c'est quelque chose qui vous est possible, Tanguy, vous pensez?
Je ne me tentais pas trop aller vers le pilate, mais éventuellement, si ça peut solutionner la chose. Parce qu'après, on va parler aussi de marche nordique qui pourrait être bénéfique, peut-être.
Toute activité sera bénéfique à partir du moment où, pendant votre effort, vous aurez compris ce que c'est que la rétroversion du bassin et la contraction de ses abdos transverses et que vous le mettrez en action.
Pour protéger finalement
Si vous partez faire de la marche nordique avec ce qu'on appelle une antéversion, un bassin un peu cambré, des abdos qui gagnent pas, on risque peut-être d'avoir l'effet inverse.
Eh oui, de renforcer.
Donc,
ça, ok.
Voilà, moi je vous encourage de prendre peut-être contact avec des professionnels du pilate, de comprendre un petit peu ces mouvements et après vous serez à mon avis tout à fait en capacité de pouvoir faire vos exercices chez vous en autonomie.
Oui, ou avec un médecin du sport, voilà, vous. vous conseiller aussi des exercices. Voilà. Faites ce qui est le mieux pour vous, Tanguy, et prenez soin de vous surtout. Bonne journée.
Merci.
À bientôt. Au revoir. Chérif a de très gros problèmes dans le genou gauche. On va s'occuper de vous juste après Gala sur France Bleu de Romardèche. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous l'aimez bien cette chanson, Arthur.
Ah, ça me rappelle ma jeunesse. Hein.
Oui, aussi. Puis bon, c'est... C'est un hymne.
C'est un hymne dans le rugby, alors ça va bien.
Ah bah voilà, c'est ça, voilà.
France Bleu Dromardèche jusqu'à 10h, à votre service.
Arthur Molik, notre médecin du sport, vous êtes les bienvenus en direct au 04 75 40 10 10 avec vos questions. Si vous n'avez pas entendu le début de cette émission, sachez que Arthur a déjà donné pas mal de conseils sur les crampes, sur les lombalgies, et puis nous avons commencé par des douleurs, des rhumatismes apparemment qui n'en sont pas, donc voilà, pour en savoir un petit peu plus, rendez-vous sur francebleu.fr. Bonjour Chérif.
Bonjour.
Merci d'avoir patienté. Alors vous avez de très gros problèmes dans le genou.
Oui, je vous remercie pour votre émission, vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire.
Oh, merci à vous de l'écouter, merci pour les compliments. Alors que vous arrive-t-il dans le genou gauche?
Moi je suis plombier de métier, et donc j'ai forcé pendant des années et des années, avec quand on cintre le cuivre et tout ça et tout ça. Et en fin de compte, là maintenant j'ai 70 ans, et le problème c'est que j'ai une douleur, mais alors, du côté gauche, sur le genou gauche, c'est atroce. Mmh. Alors je me suis fait faire des infiltrations à plusieurs reprises, et je voulais voir avec le médecin s'il y a des possibilités pour éviter l'opération, parce que j'ai pas trop envie de me faire...
Opérer, oui, ça on peut vous comprendre, Chérif. Oui, alors est-ce qu'il y a des solutions? Parce que le mal dont souffre Chérif est fréquent, malheureusement.
Oui, bonjour Chérif, merci pour votre appel. Alors, si je comprends bien, le diagnostic qui a été posé, c'était un diagnostic d'arthrose du genou que vous aviez?
Oui.
D'accord.
Oui, oui.
Et les infiltrations que vous avez eues, ça a été des infiltrations d'anti-inflammatoires, ou on vous a mis, comme on appelle ça communément, du gel dans le genou aussi?
Alors, on m'a mis du gel. D'abord, ça a commencé par des infiltrations, comme ça, juste oui. Pour me calmer un peu. Et puis, à un moment donné, il m'a dit, écoutez, il ne reste plus qu'une une autre solution, c'est d'injecter comme ce gel-là.
D'accord.
À trois reprises. Et là, ça fait à peu près 15 jours que j'ai fait ça. Je ne sais pas s'il faut attendre encore un peu pour avoir des réactions. Et en fin de compte, j'ai toujours très, très mal.
D'accord.
Ouais, alors, dans le temps, finalement, ça ne.
Oui,
ça ne
alors, le cas de Chérif est un cas qu'on a très souvent en consultation, c'est-à-dire des gens qui ont eu des métiers physiques, qui ont eu de l'usure articulaire, donc de l'arthrose, comme on disait tout à l'heure, c'est une usure du cartilage, et on se retrouve avec des grosses douleurs. Aujourd'hui, dans ces prises en charge des arthroses du genou, la chose la plus importante à faire, c'est déjà de maintenir de la mobilité articulaire, puisque le fait quand un cartilage va bouger, mais sans contrainte, ça va activer plein de choses vertueuses. Donc, première chose à faire, Chérif, déjà, c'est le conseil que je vous donnerais, c'est d'acheter un vélo d'appart pour pouvoir mouliner dans le vide, on dit en général, 20 minutes par jour sans aucune résistance.
D'accord, ouais.
Ça, c'est le préambule, même à tout autre traitement, ça potentialise l'effet notamment de certaines injections, je vais en parler. Donc, la solution, effectivement, quand un genou est très inflammatoire, douloureux et gonflé, on peut mettre un anti-inflammatoire dans le genou. C'est des dérivés de cortisone, c'est quand on parle d'infiltration classique, on sous-entend
c'est
cela.
C'est ça, d'accord.
Et puis, ce qu'on peut faire, c'est aujourd'hui injecter de l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, ce qu'on appelle communément le gel, c'est une protéine qu'on normalement on fabrique naturellement, et c'est le principal composant du liquide articulaire, mais quand le genou souffre et avec le temps, on en fabrique beaucoup moins. Donc on s'est rendu compte il y a plusieurs années de ça, qu'en injectant cet acide hyaluronique dans le genou, en fait, on explique des fois peu souvent aux patients comment ça fonctionne. Cet acide cette molécule va rester, cette protéine, une dizaine de jours dans le genou, pas bien plus. Mais son action, c'est d'aller stimuler vos propres cellules pour relancer votre production naturelle. Alors, est-ce que les gens vont être capables d'en reproduire? En quelle qualité? En quelle quantité? Et pendant combien de temps? On ne peut pas le prévoir.
C'est variable.
C'est variable en fonction des patients et de l'avancée de la pathologie. Mais c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Ah. À titre personnel, je trouve que ça marche d'autant mieux qu'on a fait du rodage en vélo avant, qu'on a préparé les cellules et le genou à pouvoir réagir à cet acide hyaluronique. Le temps entre le moment où on injecte et le moment où on va voir des améliorations, il faut bien se donner, Chérif, à mon avis, 2 mois. Je dis souvent aux patients, on fera le point à 8 semaines de ces injections pour voir si c'était efficace. Si elles ne le sont pas, on a aussi la possibilité maintenant, depuis quelques années, d'injecter ce qu'on appelle du PRP, du plasma riche en plaquettes. Pour faire très simple, on vous fait une prise de sang. Le tube est centrifugé dans une petite machine qui tourne très vite devant vous, 5 minutes, pour faire tomber les globules rouges. Et on vient récupérer juste ce qui surnage au-dessus du tube, c'est-à-dire un concentré de plaquettes et de plasma. Le plasma, c'est le liquide dans le sang circulant. Et en fait, c'est un méga concentré de facteurs cicatriciels qu'on réinjecte dans l'articulation. Le geste est exactement le même que pour les deux infiltrations précédentes. Ouais. C'est le produit qui change. Donc on va réinjecter vos propres plaquettes. Et ça aura une action vraiment à la fois anti-inflammatoire, qui tendrait à refaire un genre de petit film protecteur sur ces zones-là. Et très souvent, en général, on le propose dans la cile, le gel n'a pas suffi. C'était la cile hyaluronique n'a pas été suffisant. On le propose. Donc ça vous laisse une
encore une autre possibilité, une autre avant l'opération. Chérie.
Et effectivement, quand quelqu'un a très mal au genou et que ça n'avance pas, on peut après discuter la mise en place de prothèses de genoux qui sont très très bien tolérées et qui changent la vie des gens si elles arrivent au bon moment. Et qu'elles sont bien indiquées, c'est surtout ça.
Et qui ont une durée de vie de...
Aujourd'hui,
qui
les prothèses, c'est long, oui. Ah oui, au moins 15-20 ans.
Oui, ah oui, d'accord, oui, c'est ça, on n'est plus sur les mêmes échéances.
Ça a progressé.
Ça a beaucoup progressé. Donc, bon, et puis avant ça, il y a d'autres étapes. Donc, shérif, là, déjà, patience, et puis ensuite, l'autre solution. Et on n'oublie pas le vélo, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà un vélo d'appartement.
Oui, non, mais j'ai une salle de sport à la maison.
Ah, donc,
tout ce qu'il faut, pas, impeccable.
Voilà. Oui, mais en revanche, il ne faut pas forcer. Hein,
sans
parce que ça,
aucune
c'est...
résistance.
Voilà. Non, mais j'ai des vélos, j'ai le tapis de marche.
Oh, d'accord, vous êtes bien équipé, super.
Oui,
bon, bah prenez soin de vous.
Mon ami, par contre, il s'est fait opérer d'un genou.
Oui.
Et il s'est mis carrément à genoux, il se relevait, il n'avait plus aucune douleur. Mmh. Ils ont mis quelque chose entre le genou et le... Voilà, à la place du cartilage, ils lui ont mis je sais pas ce qu'ils lui ont mis, là. D'après ce qu'il m'a dit, et en fin de compte, il n'a plus aucune douleur, il n'a plus rien. En plus, il est tout souple. Alors que vraiment, moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Hein.
Ouais. Et c'est la prothèse dont vous parliez, ça?
Non, les prothèses de genou, il existe des prothèses unicompartimentales. On ne change qu'une petite partie du genou, dans des cas quand même très, très rares. Ce n'est pas la majorité de ce qui est posé. Ouais. Aujourd'hui, il existe quelques autres solutions, mais qui sont aujourd'hui plutôt expérimentales qu'autre chose, de prothèses méniscales. Mais sur ce qu'on voit actuellement, pour l'instant, ça fait pas, c'est pas ce qui est recommandé, puisque je pense que c'est plutôt au stade expérimental aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, entre le rodage, l'injection de gel et le PRP, je pense qu'on a encore des solutions pour vous, chef.
Je vais écouter ce que vous m'avez dit, là. Je vais commencer à refaire du vélo, vraiment sans forcer.
Oui, vous disiez 20 minutes par jour, tous les jours. Hein. 20 minutes voilà, par jour, tous les jours, hein, shérif. Hein. Bon, bah écoutez, puis comme ça, en même temps, continuez à écouter France Bleu de Romardèche. Merci beaucoup, bonne journée, shérif, au revoir. On va faire une place avant de se quitter, j'espère qu'on va pouvoir lui répondre à Annie de Montélimar. Bonjour Annie.
Oui, bonjour.
Bon, alors vous avez deux tendons qui ont claqué dans l'épaule droite.
Voilà, usé à l'épaule droite, oui.
D'accord. Alors.
Alors, les ruptures tendineuses, oui, c'est quelque chose qui arrive malheureusement, qui arrive très souvent sur des tendons un peu usés, ou sur des tendinites chroniques qui ont traîné très longtemps au niveau de l'épaule. Vous avez quel âge, Annie? Excusez-moi.
73 ans.
D'accord. Et vous êtes quelqu'un de bien active?
Oui, je fais beaucoup de marche, oui.
Et oui. Au niveau de votre épaule, aujourd'hui, bon, fort de ces deux tendons cassés, qu'est-ce qui vous gêne le plus? Ce sont les douleurs ou c'est la gêne fonctionnelle? Vous n'arrivez plus à vous servir de votre épaule sur les mouvements?
La gêne fonctionnelle, pour lever le bras. Alors le kiné m'a pris quelques mouvements avant de lever le bras, je l'ai fait, ça me soulage, voilà.
D'accord. Alors, sur les ruptures tendineuses, j'ai essayé d'être concis, on a deux options. Ou c'est une rupture qui est fraîche, c'est-à-dire assez récente, sur un tendon de bonne qualité, surtout sur un muscle qui n'a pas souffert de lésions tendineuses dans le temps, parce que le muscle, quand il n'est plus sollicité par le tendon ou que le tendon est trop abîmé, il peut devenir de la graisse petit à petit. On appelle ça une involution graisseuse. Et malheureusement, c'est pas réversible.
D'accord.
Donc, quand les gens arrivent avec des ruptures tendineuses sur des tendons qui ont été abîmés pendant un petit bout de temps et que le muscle est devenu de la graisse, malheureusement, on n'a pas de solution chirurgicale à leur proposer, parce que remettre le tendon sur un muscle qui ne sera pas capable de l'activer, ça ne sert pas à grand chose.
D'accord.
Donc, dans le cas où on n'a pas de possibilité de chirurgie parce que les tendons sont en trop mauvaise posture ou que le muscle est devenu un peu graisseux, ben dans ces cas-là, il faut vraiment arriver à remuscler tous les autres muscles, parce qu'une épaule s'est suspendue par une multitude de muscles, pour arriver à compenser. Et effectivement, là-dessus, moi j'encourage beaucoup les gens à aller en piscine pour retrouver des mobilités, parce que dans l'eau, l'épaule va remonter à des amplitudes qu'on n'aura pas, ce qu'on appelle à sec, entre guillemets, quand on est dans l'air, et de vous donner une petite... Il faut tous les jours avoir des petits exercices avec des poids légers ou des élastiques, il faut que le kiné vous montre ça, pour essayer de compenser ces tendons cassés par les tendons restants.
D'accord, mais dans l'eau, hein, à la piscine.
Alors, à la piscine, c'est très important, et ça peut être complété aussi avec des petits exercices à la maison.
D'accord.
Dans l'air.
dans l'air.
Mais la piscine est un très bon moyen de pouvoir aller travailler sur des amplitudes qu'on ne pourrait pas aller chercher si on n'était pas dans l'eau.
Et on n'est pas obligé de faire la nage papillon pour y arriver, hein, dès
forcément.
Le départ.
Hein,
c'est ça. Bon, voilà quelques conseils, Anime. Bonne journée, à bientôt sur France Bleu Drôme-Ardèche. Merci beaucoup, Arthur Molik. Prenez soin de vous et à bientôt sur notre antenne.
Merci, Nelly.